Hébreux, chapitre 5 et 6, première partie. Du livre des Hébreux. Puis nous allons dans le septième, le sacerdoce de Melchisédek, jusque dans ce grand jour d'expiation, et séparant, divisant l'expiation. Puis dans ce grand chapitre de la foi, le chapitre 11, et le 12e chapitre, mettant de côté tout fardeau, et le 13e chapitre, cette demeure éternelle n'est pas construite de main d'homme, mais Dieu est le seul qui a fait cette grande demeure. Oh, comme c'est magnifique! Je suis content de voir notre sœur, là-bas derrière, qui vient d'entrer dans le service. Je la vois, ainsi que son mari. Hier, nous étions en chemin au travers d'un endroit qui... Je croyais que je connaissais toutes les petites fissures et les coins, étant le garde-chasse ici en Indiana, et patrouillant pendant plusieurs années. Je connaissais tous les endroits, mais j'aurais pu me perdre hier là-haut, où ils étaient, au sommet de ces bosses, une nouvelle route. Et la dame avait le cancer dans les poumons. Et le Seigneur guérit la femme définitivement. Nous prîmes. Oh, et comme tout cela vint, nous étions assis là. Frère Robertson, il est probablement ici aujourd'hui. Je vois sa femme, et frère Wood qui est ici. Et nous étions là-haut dans un vieux camion, frère Robertson et moi et frère Wood. Et nous allâmes dans ce camion, et nous allâmes là-haut, tout en haut de la colline. Et là, le Seigneur montra le cancer définitivement. Et alors, nous restâmes là, et nous observâmes le cancer quitter la femme. Avec nos propres yeux, nous nous tenions là, et nous le regardions quitter la femme. Elle rappela la femme de frère Wood. Elle me disait qu'elle crachait cette chose très noire. Et la voici ce matin, assise de nouveau dans l'église. Elle et son mari bien-aimé, ayant un temps merveilleux dans le Seigneur. N'est-il pas merveilleux? Et je ne savais pas qu'ici, ordinairement, aux personnes qui sont par ici, des visions arrivent, très rarement ici. C'est mon chez-moi, et je veux dire dans l'église. Dimanche, il y a une semaine, nous, combien étaient ici pour voir l'homme dans la chaise roulante? Aveugle, estropié, sans équilibre, le nerf mental était fichu, et la clinique Mayo l'avait abandonné. Et un de mes amis docteurs, un catholique, l'envoya ici. Et avant de venir au service, le Seigneur donna une vision de l'homme. Vous savez tout cela. Et l'homme fut guéri par « Ainsi dit le Seigneur ». Vous voyez? Et alors il se leva, il sortit, il prit sa chaise roulante. Et il pouvait voir comme vous et moi le pouvons. Il sortit du bâtiment, poussant sa chaise, normalement. Et le nerf de l'équilibre, vous savez, vous ne pouvez pas vous tenir comme cela. Vous voyez? Vous ne pouvez simplement pas. Et pendant des années, c'était cela. Et hier, quand j'arrivais là, la dame avait eu un rêve, me voyant venir, à exactement 2 heures, et prononçant cette question avec le cancer, et ainsi dit le Seigneur. Elle fut guérie, et elle se réveilla, c'était exactement 2 heures. Et l'Esprit du Seigneur descendit, et là, ce rêve qu'il avait eu, et le Seigneur donna l'interprétation, et elle fut guérie, juste là sur place, juste là où nous regardions. Oh, comme c'est merveilleux! Je ne me rappelle pas de son nom. Qu'est-ce que c'est? Quel est votre nom? Sir Walton. Sir Walton, assis juste là derrière. Voudriez-vous lever, Sir Walton? J'aimerais vous demander comment vous vous portez. Amen! C'est bien, très bien, formidable! Il est bon de nous bénir de cette manière. Ainsi, nous attendons l'excessive, abondante mesure de Dieu. Un docteur lui avait caché cela. Il lui dit qu'elle ne respirait que d'un côté, mais c'était un cancer, et cela avait grossi à travers et avait coupé la respiration de ce côté-là du poumon, vous voyez? Et vous ne pouvez pas même voir un cancer à travers la radiographie, parce que le cancer, ce sont des cellules, la cellule elle-même, et c'est vivant, et vous regardez directement à travers le cancer par la radiographie. Vous ne pouvez pas le voir. Mais le Seigneur a vraiment, nous restâmes et nous le regardîmes nous-mêmes avec nos propres yeux. Nous l'avons vu bouger, nous l'avons vu sortir avec nos propres yeux. Ainsi, nous sommes reconnaissants pour cela. Et maintenant, priez pour nous maintenant, cette semaine, parce que nous partirons loin d'ici. Et frère Neville reprendra certainement où j'en suis resté pour le service de mercredi soir. Ne le manquez pas maintenant dans cette grande chaîne du livre de l'Apocalypse. Maintenant, je sais que beaucoup de prières ont été offertes. Et nous, nous savons que Dieu écoute les prières. Mais nous, ce matin, nous voulons seulement offrir une petite prière avant la lecture du livre. Maintenant, n'importe quelle personne qui en est capable peut lire le livre de cette façon, ou peut l'ouvrir de cette façon. Mais il faut Dieu seul pour ouvrir la compréhension, parce qu'il est le seul qui puisse le faire. Ainsi, inclinons nos têtes pendant un moment. Maintenant, Père, dans le nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, nous venons maintenant très humblement pour nous soumettre comme tes serviteurs afin que tu nous parles. Circoncis les lèvres qui parlent et les oreilles qui écoutent, afin que la parole soit prononcée par Dieu et écoutée par l'Esprit dans les gens. Accorde-leur, Père, qu'ils puissent prendre la parole de Dieu et nous fournissent juste comme nous en avons besoin, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Maintenant, en lisant ce matin, nous étudions, nous ne prêchons pas, nous étudions simplement ce livre des Hébreux. Combien ils prennent plaisir? Oh, nous passons des moments merveilleux. Et maintenant, étudions simplement de très près, écriture sur écriture. Cela doit, la Bible entière s'enchaîne ensemble. Il n'y a pas un seul mot qui est hors de sa place, s'il est placé là ensemble par le Saint-Esprit. Maintenant, un homme a dit, la Bible se contredit. Oh, je veux le voir. Je l'ai demandé pendant 25 ans, et personne ne l'a encore montré. La Bible ne se contredit pas. Et si elle le faisait, alors cela n'est pas la Bible. Le grand et infini Jéhovah ne pourrait pas se contredire lui-même. Ainsi, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est seulement les gens qui ne comprennent pas. Maintenant, pour un arrière-plan, jusqu'à ce que nous arrivions de nouveau. Maintenant, le livre des Hébreux fut écrit par saint Paul aux Hébreux. Il en écrivit un aux Éphésiens, c'était le peuple d'Éphèse, l'église chrétienne, un aux Romains à Rome, et un aux Galates, et un aux Hébreux. Maintenant, nous remarquons que Paul, étant un enseignant de la Bible pour commencer, c'est ce que nous apprenons, il se tenait sous ce grand enseignant, un des meilleurs de ses jours, Gamaliel, et il était bien versé dans l'Ancien Testament, il le connaissait bien, mais il devint un persécuteur du chemin qui était le chemin de Christ, parce qu'il avait été instruit dans l'Ancien Testament sous des enseignants. Mais les enseignants, d'habitude charnels, j'espère que je ne dis rien de faux, mais normalement, si un homme a seulement l'enseignement et la façon des écoles, c'est normalement fait par les hommes. Vous voyez, ce n'est pas inspiré, parce que cela devient une doctrine d'une école. Nous avons cela aujourd'hui. Presbytériens, luthériens, pentecôtistes, toutes ces écoles ont leur théorie. Et ils enroulent simplement les Écritures dans tout cela. Et c'était la même chose dans l'Ancien Testament. Mais Paul, étant bien entraîné et connaissant les Écritures mot pour mot, mais vous voyez, les Écritures, qu'importe combien vous les connaissez, si l'Esprit ne les anime pas, alors la lettre tue. L'Esprit donne la vie. Vous voyez, cela doit être animé ou vivifié par l'Esprit. Et si l'Esprit ne rend pas la parole vivante et ne la fait pas une réalité pour vous, alors la lettre est seulement intellectuelle. Et c'est là que nous avons tant de chrétiens de confession aujourd'hui, ou des prétendus chrétiens. C'est cette conception intellectuelle de Christ. Alors, nous avons déraillé sur, bien, il a dû sentir quelque chose, et il a dû faire quelque chose, et, oh, nous irons là-dedans dans un moment. L'un devait crier, les méthodistes devaient crier avant de l'avoir, les pentecôtistes devaient parler en langue avant de l'avoir, et oh, des autres, les Quakers, ils devaient trembler, vous savez, ils marchaient de bas en haut, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, vous voyez, les Quakers, des trembleurs, alors le Saint-Esprit vint sur eux et les secoua, et ils l'avaient. Mais tout cela, c'est seulement de fantastique, rien de cela n'est la vérité. Dieu vit dans sa parole. La foi vient de ce que l'on entend, entend la parole. Par la foi, vous êtes sauvés à travers la grâce. Pas rien du tout qui, même si vous tremblez, ou parlez en langue, ou qu'importe ce qui se passe, cela n'a rien du tout à faire là-dedans du tout. Jésus a dit, « Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui entend ma parole et croit a été rendu vivant par lui a la vie éternelle. » Cela y est. Cela n'a aucune importance quelle petite chose vous faites. Maintenant, je ne m'oppose pas à ce que vous trembliez, ou à au parler en langue, ou à trembler. Oh, que vous criez, c'est très bien, c'est bien. Mais ce sont seulement des attributs, vous voyez. Je pourrais vous donner une pomme d'un arbre, et vous n'auriez toujours pas l'arbre, vous voyez. Vous, ce sont des attributs. Mentir, voler, boire, fumer, jouer, commettre l'adultère, ne sont pas le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité, vous voyez. C'est ce que vous, vous faites cela parce que vous êtes un pécheur. Voilà ce qui vous fait faire cela, parce que vous ne croyez pas. Et si vous croyez, alors vous ne faites pas cela. Alors vous avez l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la gentillesse, l'humilité, la patience. Voilà les fruits du Saint-Esprit, vous voyez. Ainsi nous avons de petites choses, ces petites sensations. C'est parce que l'homme est sorti du vieux sentier piétiné de la parole. C'est la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Ainsi, quand Paul, Dieu a choisi Paul, l'homme a choisi Matthias, quand ils tirèrent au sort, mais il ne fit jamais rien. Cela montre quelle puissance l'Église a alors pour faire un choix, pour élire leur diacre, pour envoyer leur prédicateur à différents endroits. C'est souvent charnel. Qu'un homme aille où Dieu le pousse à aller. J'aime cela. Et si les gens, dans une petite conférence, disent simplement, « Bien, voici une jolie petite église. Ce frère a construit une jolie petite église. » Et ils ont un petit favori. Ils l'enverront là, à cette église. Et ils ne réalisent pas qu'ils se tuent eux-mêmes. Vous voyez? Premièrement, si cet homme va là-dedans, il ne peut pas remplir la place de cet homme. Et alors, ils affaiblissent seulement l'Église en essayant de montrer des faveurs à quelques favoris. Cela a toujours été comme cela. Mais je crois à l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Oui, que chaque Église soit pour elle-même, choisisse ses pasteurs, ses diacres, ses quoi que cela soit. Et alors, de cette manière-là, l'homme là-dedans n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette Église. Ils n'ont pas besoin de demander à personne. S'il pourrait faire ceci ou faire cela, c'est l'individu en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi dans la Bible ce qui est plus grand dans la Bible qu'un ancien local dans l'Église locale. C'est juste. Oui, monsieur, la souveraineté de l'Église locale, chaque Église en elle-même. Maintenant, la fraternité, c'est merveilleux. Toutes les Églises devraient être en fraternité comme cela ensemble. Mais la souveraineté de l'Église locale. Remarquez Paul, étant un grand maître enseignant, bien entraîné, sur sa route, descendant à Damas, un jour, pour arrêter les gens qui étaient dans ce nouveau chemin. Maintenant, il était sincère. Dieu ne vous juge pas par votre sincérité. Je n'ai jamais vu de gens aussi sincères que les athées. Beaucoup d'entre eux tuent même leurs propres enfants et choses pour les sacrifier aux idoles. Ce n'est pas la sincérité. Un homme pourrait prendre de l'acide carbonique sincèrement, pensant qu'il prendrait quelque chose d'autre. La sincérité ne vous sauve pas. Il y a un chemin qui semble être juste pour l'homme, mais la fin de celui-ci est le chemin de l'enfer. Paul était sincère quand il fut témoin de sa propre autorité de lapider Étienne. Et plus tard, dans les années, j'aime l'excuse de Paul. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé le disciple ou d'être appelé un apôtre parce que j'ai persécuté l'Église, même jusqu'à la mort. Avec sincérité. Et en descendant la route, il fit une expérience. Le Saint-Esprit sortit dans cette grande colonne de feu et cela le rendit aveugle. Maintenant, nous avons déjà vu cela, cette colonne de feu était Christ. Et c'est la même colonne de feu qui conduisit les enfants à travers le désert. Christ était Dieu et Dieu était Christ. Dieu a été fait chair il habita dans le corps du Seigneur Jésus, et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, montrant ce qu'il était. Et dans la Bible, là-bas en arrière, dans les versets précédents, nous avons lu que il s'est fait lui-même plus bas que les anges, prenant la forme, pas celle des anges, mais prenant une forme de chair. Les anges n'étaient pas tombés, ils n'ont pas besoin de rédemption, mais la chair était tombée, des êtres humains, et ils avaient besoin de rédemption. Ainsi, dans les vieilles lois, un homme, pour être un rédempteur, premièrement, il devait être un proche parent. Le grand livre de Ruth, nous avons vu cela il n'y a pas longtemps, et comment Dieu, étant esprit, a été fait parent avec nous, en devenant un des nôtres, pour pouvoir nous sauver et nous donner la vie éternelle. Il devait devenir nôtre, afin que nous, par la grâce, puissions devenir comme lui. Et nous trouvons que la colonne de feu conduisit les enfants d'Israël, et quand elle fut faite chair ici sur la terre, nous l'entendons parler un jour, et il professe être la colonne de feu. Ils dirent, « Dis-tu que tu es plus grand que notre père Abraham ?» Il dit, « Avant qu'Abraham ne soit, je suis. » Qui était le « je suis » La colonne de feu dans le buisson ardent. Un commémoratif éternel à travers chaque génération. Pas seulement cette génération-là, mais cette génération-ci. La même colonne de feu. Et nous sommes reconnaissants ce matin que nous en avons même l'image qu'il n'a pas changé. Il est l'immortel éternel, le béni. Il fait les mêmes choses maintenant qu'il fit alors, et combien joyeux cela nous rend. Mais avant que Paul n'accepte cette expérience, sachant que l'ange du Seigneur était la colonne de feu, qui était Christ, c'était l'ange de l'Alliance qui était Christ, Moïse pensa là que préféra souffrir les afflictions avec le peuple de Christ et d'être conduit par Christ que tous les trésors de l'Égypte. Il suivit Christ, qui était dans une forme de la colonne de feu. Alors Christ dit, « Je viens de Dieu quand il était ici sous la terre. Je retourne à Dieu. » Après sa mort, ensevelissement, résurrection, son corps glorifié, assis à la droite de la majesté pour faire intercession, Paul le vit comme une colonne de feu de nouveau. Une lumière qui lui fit presque perdre les yeux le frappa d'aveuglement. Et Pierre le vit venir dans la prison comme lumière et ouvrir les portes devant lui comme il sortait. Nous trouvons qu'il était l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et ici, il est avec nous, aujourd'hui, faisant exactement les mêmes choses qu'il faisait alors, se rendant de nouveau visible pour nous, le montrant au monde scientifique. Oh, dans cette grandeur de ténèbres et de chaos sur toute la terre, nous devrions être les gens les plus heureux sur toute la terre, nous réjouir de savoir, tout le temps quand les gens sont endoctrinés et toutes sortes de ismes et de choses dans le monde, et tout de même, aujourd'hui, le vrai Dieu vivant, par sa parole et par son évidence visible, nous montre qu'il est ici avec nous. Œuvrant, se déplaçant, vivant, agissant exactement comme il l'a toujours fait. Quels gens privilégiés nous sommes d'avoir cela. Nous devrions, la Bible dit alors dans le deuxième chapitre, nous devrions nous cramponner à ces choses. Parce que comment pourrons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Maintenant, nous venons pour trouver qu'avant que Paul n'accepte cette expérience, maintenant nous creusons. Maintenant, qu'importe la sorte d'expérience que vous avez eue, Église, je veux vous demander quelque chose. Qu'importe combien cela semble être bon, combien cela semble réel, cela doit d'abord être testé par la Bible, toujours sur la parole. Ne quittez jamais cela pour aucune sorte d'expérience. Et Paul, avant qu'il ne veuille l'accepter, il descendit en Arabie, et là il resta 3 ans, éprouvant cette expérience avec la parole. Et quand il revint, il était sûr. Rien ne pouvait le faire changer, car il était solide sur la parole. Impossible de le faire changer d'avis. Et voici où il tourne maintenant pour montrer à ces Hébreux ces grandes choses dont il est parlé dans l'Ancien Testament qui furent rendues manifestes en Jésus-Christ. Oh, quelle gloire! Maintenant, dimanche passé ou mercredi passé, frère Neville ici, dans le 5e chapitre, toucha de très haut endroit, car c'est un chapitre magnifique. Et nous le trouvons qui s'occupe du sabbat dans le 4e chapitre. Et dimanche dernier, la conservation du sabbat. Êtes-vous sûr ce matin que vous savez ce qu'est la pratique ou la conservation du sabbat? Si vous le savez, dites Amen. La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Le sabbat est un repos dans lequel nous entrons, pas des jours, pas par la loi, mais en entrant dans Christ qui est notre sabbat. Il est notre sabbat. Nous l'avons trouvé à travers tout l'Ancien Testament et avons montré que le temps viendrait quand la parole viendrait ligne sur ligne, précepte sur précepte, et il a prouvé que nous sommes rentrés dans son repos le jour de la Pentecôte. Car cela permettrait à ceux qui sont fatigués de se reposer ou de s'arrêter. Et nous trouvons que Dieu avait délimité un certain jour en David concernant le septième jour. Et Dieu s'est reposé le septième. Il le donna aux enfants d'Israël dans le désert. Et de nouveau, il délimita un autre jour. Quel jour était-ce? Un certain jour dans la semaine? Le jour où vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour où il entre pour vous donner une paix éternelle, un éternel sabbat. Vous n'allez pas à l'église le dimanche pour devenir religieux. Quand vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous entrez dans le repos pour toujours. Il n'y a plus à garder de sabbat. Vous êtes dans le sabbat continuellement, pour toujours et pour l'éternité. Vos œuvres terrestres sont finies, dit la Bible, et vous êtes entrés dans cette paix bénie. Ces cinq premiers chapitres placent Jésus positionnellement comme le grand prêtre. Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parla à leur père par le prophète, mais dans ce dernier jour par son fils Jésus. Premier chapitre, premier verset. Alors, cela continue jusqu'à la fin du cinquième chapitre. Nous le trouvons représenté comme Melchisédek, qui n'avait pas de commencement de jour ou de fin de vie, mais continuellement un prêtre pour toujours. Pensez-y. Qui était ce grand homme? Nous le trouvons dans à peu près deux chapitres. Sa vie entière, nous allons l'étudier. Ce grand homme qui rencontra Abraham, qui n'eut jamais un papa, qui n'eut jamais une maman, à aucun moment il ne dut commencer sa vie, et il ne devra à aucun moment la finir. Et il rencontra Abraham venant du massacre des rois. Remarquez cette grande personne. Qui que ce soit, il vit toujours. Il n'a pas de fin de vie. C'était Christ qu'il rencontra. Nous irons dans une étude profonde sur cela dans quelques jours. Maintenant, nous voulons commencer ici, dans le cinquième chapitre maintenant. Seulement pour un petit arrière-plan, avant que nous atteignions le sixième, car c'est vraiment quelque chose de marquant. Regardez attentivement. Nous allons commencer environ au septième verset de ce chapitre. Bien, commençons au sixième verset. Comme il dit aussi dans un autre passage, « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, qui durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Maintenant, voici où je veux en venir. Ce neuvième verset, écoutez, je suppose que frère Neville le toucha mercredi, ce n'était pas ici. Bien, écoutez, et ayant été conduit ou élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel, étant salué par Dieu, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire. Nous le laissons là pour cela, car nous allons prendre Melchisédek dans quelque temps. Maintenant, nous allons commencer cela, notre étude régulière. J'aimerais pouvoir seulement lire le reste de cela pour un moment, le 11e verset. Au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter ou lents à comprendre. Car lorsque vous devriez être des docteurs vu le temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Oh, j'espère que le Saint-Esprit prend cela et le met tout au fond de vous maintenant. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Vous donnez de la nourriture solide à un enfant, vous le tuez. Voilà la raison pour laquelle tant de personnes disent « Ah, je ne crois pas cela !» et sortent et s'en vont. Ce sont encore des bébés. Ils ne peuvent simplement pas comprendre. Ils ne peuvent simplement pas saisir la vérité. Cela les tue. L'Église devrait savoir aujourd'hui de grandes et puissantes choses, mais vous ne pourriez pas l'enseigner. Ils trébuchent sur cela. Ils ne savent pas quoi faire avec cela. Paul parlant à ce grand groupe d'Hébreux, même à des érudits, il parlerait maintenant à des érudits bien instruits. Nous trouvons cela dans un petit moment, très savant. Mais les profonds mystères spirituels, l'Église est toujours aveugle à cela. Il dit, quand vous devriez enseigner les autres, vous êtes encore des bébés. Oh, je sais, il y en a beaucoup qui se lèvent et qui sortent et qui disent, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'Église. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit est venu, c'est lui l'enseignant. Quand vous avez cette idée, vous êtes seulement faux. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-il envoyé des enseignants ou des docteurs dans l'Église? S'il devait être l'enseignant, vous voyez, il y a d'abord des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Le Saint-Esprit a mis des docteurs dans l'Église afin qu'ils puissent enseigner à travers ce docteur. Si ce n'est pas en accord avec la parole, Dieu ne le confirme pas. Alors ce n'est pas l'enseignement juste. Cela doit se comparer avec la Bible entière, être aussi vivant aujourd'hui qu'elle était alors. Voilà la vraie chose rendue manifeste. Maintenant, observez. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Savent ce qui est juste de ce qui est faux par le discernement. Maintenant, notez, commençons notre leçon maintenant, ce grand arrière-plan maintenant, commençons au premier verset. C'est pourquoi, laissant la parole élémentaire sur le Christ. Que dit-il? Tous ces cinq premiers chapitres ont été fondés sur Christ pour montrer qui il est. Maintenant, nous laissons ces enseignements de la parole sur le Christ. Qu'avons-nous trouvé qu'il était? Nous le trouvons étant le grand Dieu Jéhovah rendu manifeste dans la chair. Nous le trouvons n'être pas seulement un prophète, mais la plénitude de la divinité corporellement. Il était Jéhovah fait chair, et le corps Jésus le tabernaclant seulement. Dieu habitant dans l'homme, Dieu étant réconcilié avec l'homme, à travers l'homme, par la naissance virginale de son propre fils. Et Jéhovah, l'Esprit, habitait en lui. Combien maintenant se rappelle l'étude de la divinité? Comme nous sommes allés en arrière, nous avons trouvé Dieu comme le grand arc-en-ciel avec tous les différents esprits, comme cela était. Et alors, le Logos sortit de Dieu, qui devint la théophanie. Et c'était dans la forme d'un homme. Et Moïse l'a vu passer dans le creux du rocher. Et alors, cette théophanie a été faite absolument chair humaine. Christ. Et comme nous trouvons que nous, par sa grâce, nous avons la vie éternelle. Maintenant, le mot pour toujours signifie pour une distance ou pour un espace de temps. Il est dit dans la Bible pour toujours et pour toujours. Une conjonction. Mais pour toujours signifie seulement un temps, mais éternel signifie pour toujours. Et seulement tout ce qui a eu un commencement a une fin. Mais les choses qui n'avaient pas de commencement n'ont pas de fin. Ainsi, Dieu n'avait pas de commencement et il n'a pas de fin. Et ainsi, de cela, Melchisédek, le grand prêtre, comme un homme, il n'avait pas de commencement et il n'a pas de fin. Et quand nous, à travers cette théophanie qui... Nous avons été faits à l'image de Dieu avant que le monde n'ait jamais commencé. Quand cette théophanie a été faite chair et habitée parmi nous, alors par sa mort, nous-mêmes recevons son esprit et nous n'avons pas de fin. La vie éternelle, pas des anges, mais hommes et femmes. Oh, d'une manière ou d'une autre, si je pouvais seulement l'apporter d'une manière que mon auditoire puisse le saisir. Vous ne serez jamais un ange. Dieu a fait des anges. Mais Dieu a fait l'homme. Et ce que Dieu fait sort de Dieu, ce qui aussi est éternel que Dieu est. Et l'homme est juste aussi éternel que son Créateur, car il a été fait d'éternité. Mais le péché a une fin, la souffrance a une fin. Donc il ne peut pas y avoir un enfer éternel. Il y a un enfer de feu et de soufre, et nous savons cela. Mais il n'y a pas d'enfer éternel. L'enfer a une fin. Cela peut aller des milliards d'années, mais finalement cela arrivera à une fin. La Bible ne dit à aucune place qu'ils souffriront éternellement. Elle dit « pour toujours et pour toujours ». Jonas pensait qu'il était dans le ventre de la baleine « pour toujours aussi ».« Pour toujours » signifie une distance ou une limite de temps. Mais éternel, c'est perpétuel. Cela n'a ni commencement ni fin. C'est comme un rond, un cercle. Et comme notre temps continue, nous sommes seulement en train de tourner autour des grands motifs de Dieu. Et le motif de Dieu était de faire l'homme à son image, pour communier et fraterniser avec lui. Et il le fit un être tangible. Maintenant, le péché nous amena dans une place de corruption, mais ça n'arrêta jamais le programme de Dieu. Et amis pécheurs, aujourd'hui, si vous n'êtes pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous avez une fin quelque part. Et votre fin, c'est le chaos, dans la ruine et la souffrance et la misère. Mais vous, qui avez cru au Seigneur Jésus et l'avez accepté comme votre sauveur personnel, vous êtes aussi éternel que Dieu est éternel. Vous n'avez pas de fin. Je leur donne la vie même de Dieu éternel, Zoé. Et ils ne périront jamais ou ne viendront même pas en jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. Voilà ce qu'il était. Voilà pourquoi il est venu. Maintenant, Jésus, dans sa venue de son sacerdoce, n'est pas seulement venu par simple sympathie. Beaucoup d'hommes l'enseignent comme cela, qu'il vient en disant, « Bien, peut-être que si je vais souffrir pour eux, je serai un spectacle pitoyable, et les gens viendront certainement vers moi. » C'est une erreur. Il n'y a pas une seule écriture pour cela. Car chaque personne qui sera jamais sauvée, Dieu les connaissait avant que le monde ne fût formé. La Bible dit cela. Dieu ne veut pas maintenant que quiconque périsse. Il les veut tous afin qu'ils viennent à la repentance. Mais étant Dieu, par sa préconnaissance, il le savait. Regardez dans les Romains, le 8e chapitre. Paul se tenait là-haut, disant cela sur les élus de Dieu. Qu'Ésaü et Jacob, avant qu'aucun des deux bébés ne naisse, ou rien du tout, Dieu dit qu'il les connaissait. Et il haïssait Ésaü et aimait Jacob. Avant qu'aucun des garçons n'ait une chance d'exprimer leur gratitude, car il était Dieu. Il sait, il est infini. Et s'il est infini, il connaissait chaque puce, chaque mouche, chaque moustique, toute chose qui arriverait sur la terre. Il le savait. Il est l'infini, éternel, immortel, Dieu béni, omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle il peut dire ce que sera la fin. Il connaissait la fin dès le commencement. Et ce qui est prophétique, c'est seulement sa connaissance. Il est le procureur en chef, il est le juge, et il parle simplement à l'avocat un peu de sa sagesse. Et voilà ce qu'est la prophétie. Qui peut le prédire? Parce qu'il sait ce qui sera. Maintenant, voilà le Dieu que nous servons. Pas un Dieu historique, pas comme les bouddhistes et les mahométans et ainsi de suite, mais un Dieu qui est omniprésent, juste maintenant, ici, ce matin, dans ce tabernacle. Juste maintenant, le grand Jéhovah, je suis, qui se forma dans l'humilité pour prendre la forme de la chair pécheresse. Le voici, voilà celui qui vous a racheté. Il ne peut pas y en avoir un autre. À aucun endroit, à aucun moment, ne peut le faire. Dieu n'était pas trois personnes là-haut, et il en envoya une, son fils. C'était Dieu lui-même. Il vint dans la forme d'un fils. Un fils a un commencement, et le fils eut un commencement. Voilà pour vous, chers catholiques. J'ai votre livre, Vérité de notre foi. Ils disent, le Fils éternel de Dieu. Comment pouvez-vous exprimer ce mot? Comment pouvez-vous faire qu'il ait du sens? Comment peut-il être éternel? Ce n'est pas la Bible, c'est votre livre. Fils éternel, il ne... Ce mot n'est pas juste pour une chose, qu'un fils a eu un commencement et éternel n'a pas de commencement. Ainsi, ce n'est pas le Fils éternel. Christ devint chair et habita parmi nous. Il eut un commencement. Ce n'était pas le Fils éternel. c'est la divinité éternelle, par le Fils. Maintenant, il vint pour nous racheter et il nous a rachetés. Maintenant, Paul, en arrivant là, ce que je suis sûr que vous avez compris par les leçons passées, nous passerons sur cela encore une fois, une autre fois, si le Seigneur le veut, seulement verset par verset. Maintenant, c'est pourquoi, laissant la parole élémentaire sur le Christ, élevons-nous vers la perfection. Cela les fit trébucher, n'est-ce pas? Faisons quoi? Élevons-nous vers la perfection. Ne posons pas de nouveau le fondement. Regardez ceci. Prenons le mot perfection. Savez-vous qu'il y a seulement une façon pour vous de vous tenir en la présence de Dieu? C'est parfait. Dieu ne peut pas tolérer des choses impies. Et vous, légalistes, comment pouvez-vous vous rendre parfait par vous-même quand vous n'avez rien pour vous rendre parfait? Vous êtes né dans le péché. Votre conception même fut dans le péché. Le désir même que vous êtes ici, c'était le péché. Né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu dans le monde disant des mensonges. Maintenant, où vous tiendrez-vous? Où vous, pécheurs, qui dites, j'arrêterai de fumer et j'irai au ciel? Où êtes-vous, tiède, rétrograde, soi-disant chrétien, qui venez ici autour avec une longue face, pleine d'arrogance, et qui dites, oh, bien, j'appartiens à l'Église. Vous, pécheurs, c'est juste, à moins que vous ne soyez nés de l'Esprit de Dieu, vous êtes perdus, c'est vrai. Comment irez-vous au ciel? Vous dites, je n'ai jamais menti dans ma vie. Oh, le petit chéri, c'était juste un ange pour commencer. C'est un mensonge. Cela m'est égal combien vous êtes bon. Vous êtes un pécheur et vous n'avez aucune chose. Il n'y a pas de prêtre, pas d'évêque, pas de cardinaux, pas de pape ou rien d'autre qui puisse vous sauver, car il est dans le même bateau que vous. Nous allons dans cela dans quelques minutes, juste dans la même condition. Il était le pape de Rome, est né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu au monde en racontant des mensonges, né par le désir sexuel d'un homme et d'une femme. Que deviendrez-vous juste de cela? Bien, mais son papa et sa maman sont nés de la même façon, et ils naquirent de la même façon, et sa grand-maman et son grand-papa, et ainsi de suite. Mais c'est le péché pour commencer. Ainsi, vous pouvez dire que ceci est saint, et que cela est saint. Il n'y a qu'une seule chose sainte, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a été fait parfait. Et notre exigence est d'être parfait. Maintenant, comment le serons-nous? Essayez-le vous-même. Je haïrais d'essayer d'aller au ciel sur les mérites de. Je suis né il y a 5 minutes et je sors du monde juste maintenant. Je serais perdu si je n'avais jamais eu une mauvaise pensée dans ma vie, si je n'avais jamais dit une mauvaise parole dans ma vie, si je n'avais jamais eu un regard qui soit mauvais, ni pensé à quelque chose de mauvais ou rien du tout. Je suis juste aussi rance et noir que les murs sales de l'enfer, car je suis encore un pécheur. Je pourrais passer ma vie enfermée dans une chambre, et comme de ces sœurs carmélites ou quelque chose, n'avoir jamais vu le monde, rester ici, prier toute ma vie, faire du bien, naître un multimillionnaire et donner aux pauvres tout ce que j'ai, je suis toujours un pécheur et j'irai en enfer. Oui, monsieur, et je pourrais joindre l'église luthérienne, baptiste, pentecôtiste, presbytérienne, si j'étais sur le registre d'El Berceau et que je vivais loyalement avec cette église jusqu'à 100 ans et que ma vie est prise et qu'aucun homme ne puisse me montrer du doigt et dire « il n'a même jamais eu une mauvaise pensée », j'irai en enfer, aussi sûr que je me tiens ici. Je suis un pécheur, c'est juste. Je n'ai rien, il n'y a aucun moyen que je pourrais trouver, aucun prix à payer. Dieu exige la mort et si je donne ma propre vie, si je donne ma vie, alors comment puis-je me repentir? Parce que vous, la dette doit d'abord être payée. Et Dieu était le seul qui pouvait déposer sa vie et la relever. Ainsi, il pouvait devenir péché et déposer sa vie et la relever et l'appeler justice. Et la dette est payée. Vous y êtes. Maintenant, tournons-nous vers Matthieu, vers le 8e chapitre. Je crois que c'est le 7e ou le 8e chapitre. Nous verrons ce que Jésus dit ici. Très bien. C'est Matthieu le 5e chapitre. Et le Jésus prêchant les béatitudes, le 47e verset. Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Regardez, Les nations même ne font-elles pas ainsi? Vous soyez donc parfaits, quoi? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'était le commandement de Jésus. Soyez donc, ils disent, personne ne peut être parfait. La Bible dit personne n'est parfait. Ah, voilà notre contradiction. En est-elle une? Très bien. Vous ne pouvez pas être parfait en vous-même. Si vous êtes confiant dans ce que vous avez, vous êtes perdu. Ainsi, soyez parfait, même aussi parfait que Dieu est parfait. Soyez maintenant, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. C'est pourquoi, maintenant, dans le cinquième chapitre des Hébreux, c'est pourquoi, laissant la parole élémentaire sur le Christ, élevons-nous vers l'enseignement parfait. Oh, maintenant vous, Branham Tabernacle, oh, je sais, nous avons des guérisons, c'est magnifique, nous avons des visions, oh, c'est bien, et vous avez des rêves spirituels, et des fois, ce ne sont pas des rêves spirituels, et quelquefois vous, nous essayons d'aider les pauvres, nous faisons ce que nous pouvons, oh, c'est très bien, mais ce n'est pas ce que nous parlons maintenant, nous entrons dans une autre phase, laissant la doctrine. Oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu né d'une vierge. Nous croyons cela avec toutes ces choses. C'est simplement merveilleux. Mais laissons cela et élevons-nous vers la perfection. Oh, j'aimerais avoir la voix d'un archange maintenant pour la porter à un endroit où vous puissiez le voir. Maintenant, il dit, laissons la parole élémentaire sur le Christ. Tous les théologiens et toute la théologie que nous connaissons, tout sur la divinité de Christ, comment il était Dieu fait chair, toutes ces autres choses. Et Paul continue en expliquant tout ici, seulement dans quelques minutes. Lisons-le seulement un petit peu avant que nous y arrivions. Ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes. Maintenant nous croyons cela. Et de la foi en Dieu, nous croyons cela. De la doctrine des baptêmes, juste comment vous devez être baptisés. Nous croyons cela. Et de l'imposition des mains. Nous croyons à l'imposition des mains, n'est-ce pas? Vous voyez tout cela, certainement. Et de la résurrection des morts. Nous croyons cela. Maintenant, regardez. Vous voyez ici, jugement, c'est employé éternel. Mais c'est pour toujours. Quand le jugement, c'est parler de Dieu, c'est pour toujours. Alors, il ne peut plus y avoir de réconciliation après que le jugement soit rendu. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu devait prendre les siens, comme nous l'appelons, sa propre médecine. Quand il condamna l'homme pour avoir péché, la seule façon qu'il pouvait le réconcilier, ou il pouvait nous réconcilier, c'était de prendre notre place et de devenir un pécheur. Dieu, Jéhovah, devint un pécheur et il donna sa vie. Et vous pourriez donner votre vie comme un pécheur pour mourir pour la cause. Paul dit, même si je donne mon corps pour être brûlé comme un sacrifice, je ne suis quand même rien, car cela ne marchera pas. Vous voyez? Quand vous mourrez, vous êtes fini. Vous mourrez comme un pécheur. Vous êtes perdu. Mais Dieu descendit dans la chair et condamna le péché dans la chair, ayant été fait chair pécheur, parce qu'il était le Dieu éternel. Et il ressuscita son propre corps. Ainsi, il est le justifié. Maintenant, toutes ces choses, élevons-nous vers la perfection, dit Paul. Maintenant, regardez. Du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Troisième verset. Maintenant, élevons-nous vers la perfection. Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous sommes tous condamnés. Qu'importe ce que nous fassions, nous sommes condamnés. Nous sommes nés condamnés. Votre maman, votre papa sont nés condamnés. Tous vos ancêtres sont nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Ainsi, comment allez-vous jamais la voir? Comment allez-vous être parfait? Si vous n'avez jamais fait une chose, n'avez jamais volé, jamais menti, jamais rien fait dans votre vie de mal, vous êtes quand même condamnés. Vous étiez condamnés avant que vous respiriez votre premier souffle. Vous étiez condamnés. C'est vrai. Et vous étiez jugé par Dieu avant que vous ne respiriez votre premier souffle. Car vous avez été jugé par le désir sexuel de votre père et de votre mère qui par leur acte vous ont amené ici sur la terre. Et Dieu le condamna au commencement. Et vous êtes condamné pour commencer. ainsi, ou vous, et chaque autre personne sur la terre était condamnée avec vous. Maintenant, où allez-vous trouver la perfection? Regardez, tournons juste pour un petit moment vers les Hébreux, le 10e chapitre. Écoutez attentivement, je veux lire un petit peu du 9e chapitre, en premièrement le 11e verset. Mais Christ, étant venu souverain sacrificateur des biens à venir, traversa le tabernacle plus grand et plus parfait, son propre tabernacle, sa chair, vous voyez, le vieux tabernacle. Avez-vous remarqué que le vieux tabernacle avait un voile qui cachait l'arche où Dieu vivait? Combien savent cela? Certainement. Bien, ce vieux tabernacle fait de main d'homme ici, les rideaux de peau de chèvre colorés et ainsi de suite. Cela a été fait pour un tabernacle, pour cacher la présence de Dieu. Et combien savent que seulement un homme pouvait aller là-dedans seulement une fois par année? Certainement. Et c'était Aaron. Aller une fois par année et il devait être loin. Oh, la condition! Et il devait avoir du feu dans sa main. Et s'il allait sans cela, il mourrait aussitôt qu'il tirait le rideau. Il serait tombé mort. Il doit aller là-dedans et allumer ses chandeliers et asperger le siège ou le trône de la grâce qui appelait le sang de la mort de la substitution, comme ainsi Christ devait venir pour l'accomplir. Maintenant, mais Dieu alors vint dans un autre type de tabernacle. Et qui était ce tabernacle? Jésus. Et Dieu était en Jésus. Et il était caché, mais il réconciliait le monde avec lui-même par ses expressions. Christ révèle à Dieu. Il dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui habite en moi. Moi, je ne fais rien moi-même, mais ce que je vois faire mon Père. Le Père en moi me montre ses visions, et alors je vais faire juste ce que le Père m'a dit de faire. Le comprenez-vous? Dieu était dedans un corps humain, pas derrière des peaux de chèvre teintes, mais il était vivant, bougeant. Dieu avait des mains, Dieu avait des pieds, Dieu avait une langue, Dieu avait des yeux, et c'était Christ. Le voilà. Maintenant, il s'en alla, et l'Esprit vint dans cela, afin que par sa mort, il puisse rendre parfaite l'Église, et rendre l'Église soumise. Et alors, le même Esprit qui était en Christ est dans l'Église, faisant les mêmes choses que Christ faisait. Un petit peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Écoutez ceci maintenant. Mais Christ, étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, traversa le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il n'a pas été fait de main. Comment est-il né? Né d'une vierge. Et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints. Que ce corps a jamais été sacrifié ou sanctifié, mais avec son propre sang. Vous savez que le sang vient du sexe masculin. Et alors quelqu'un a dit, « Oh, Jésus était un juif. » Il n'était pas un juif. « Oh, nous sommes sauvés par le sang juif. » Non, nous ne le sommes pas. Si nous avions été sauvés par du sang juif, nous sommes toujours perdus. Jésus n'était pas un juif. Il n'était pas non plus un gentil. Il était Dieu. Dieu le Père, l'Esprit. Celui qu'on ne voit pas. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le seul engendré du Père l'a révélé. Il manifestait Dieu ce que Dieu était. Maintenant, son Église est supposée manifester Dieu pour montrer ce que c'est. Vous voyez, que faisons-nous? Nous nous organisons, je n'ai rien à faire avec eux, ils sont des méthodistes, ils sont des presbytériens, je ne veux rien à faire avec eux, parce que moi je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Vous êtes perdus avec de pareils motifs. Juste, qui peut se vanter? Qui peut dire quelque chose? Regardez à la disgrâce qu'ont apporté les presbytériens. Regardez à la disgrâce des baptistes, regardez à la disgrâce des catholiques, regardez à la disgrâce des pentecôtistes, nazaréens, des pèlerins de la sainteté, regardez au reste. Mais je vous défie de le montrer du doigt à cela, amen. Montrez du doigt quand le Dieu Tout-Puissant le dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection, écoutez-le. Le voilà, voilà celui qui est parfait. Maintenant, lisons un peu plus loin maintenant. non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le comprenez-vous? Une rédemption éternelle pour nous. Pas pour être racheté aujourd'hui, et de nouveau la semaine prochaine, quand le réveil commence, être de nouveau racheté. Et alors, oh, nous reculons et sommes rachetés de nouveau. Non, vous êtes rachetés une fois pour toujours. C'est juste. Pas de rachat. Une rédemption éternelle. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement. Mais il est passé. Il est passé de la mort à la vie. Parce qu'il a tremblé, parce qu'il a été baptisé d'une certaine manière, parce qu'il avait du sang dans ses mains, parce qu'il a cru au Fils unique de Dieu. Voilà comment nous avons la rédemption éternelle. Écoutez maintenant. Car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Passez de la mort à la vie. Qu'est-ce que cela peut bien vous faire, ce qu'en pense le monde? Qu'est-ce que cela peut bien vous faire, ce qu'en pensent vos voisins? Notre conscience est morte et nous sommes régénérés et nés de nouveau par l'Esprit de Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà, vous y êtes. Maintenant, allez au verset 10, ou plutôt au chapitre 10, juste à travers la page. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement conduire à la P-E-R-F-E-C-T-I-O-N, P-A-R-F-A-I-T. C'est aussi parfait que cela, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ. Élevons-nous vers ce qui est parfait, l'enseignement parfait. La loi étant une ombre des choses à venir, toutes les ordonnances et les baptêmes et les autres choses qu'ils avaient ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait. Et tout de même, Dieu demande la perfection. Si vous vous joignez à l'église des Nazaréens, cela ne vous rendra jamais parfait. Vous joindre à l'église baptiste, pentecôtiste, quoi que cela soit, cela ne vous rendra jamais parfait. Être un homme bon et loyal, cela ne vous rendra jamais parfait. Vous ne pouvez pas mériter une chose. Il n'y a rien que vous puissiez mériter. Vous êtes perdu. Vous dites, bien, j'ai gardé la loi, j'ai gardé le sabbat, j'ai gardé ceci, toutes les ordonnances de Dieu, je fais ceci. Paul dit, laissons de côté toutes ces choses maintenant. C'est très bien, mais nous ferons ceci, nous baptiserons les fidèles, nous leur imposerons les mains pour leur guérison, et ainsi de suite. Oh, nous pourrions prendre verset par verset chacune de ces choses. Le baptême, nous y croyons. Il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une foi, un baptême. Nous croyons qu'il y a un baptême. Nous croyons à la résurrection des morts. Absolument. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous croyons cela. Imposer les mains aux malades, c'est ce qu'il est dit. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci retrouveront la santé. Nous croyons cela. Mais qu'est-ce que cela? Paul a dit, ce sont toutes des œuvres mortes. C'est quelque chose que vous faites. Maintenant, élevons-nous vers la perfection. Oh my! Nous arrivons dans le tabernacle, pas dans les fondations, le tabernacle lui-même. Ce sont les fondations, la loi et la droiture, et joindre l'Église, et être baptisé et imposer les mains, ce sont tous des ordres de l'Église. Mais élevons-nous vers la perfection. Et il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Jésus. Comment allons-nous en lui?
Par les méthodistes?
Non.
Les pentecôtistes?
Non.
Les baptistes?
Non.
Par quelque église?
Non.
Les catholiques romains?
Non.
Comment allons-nous en lui?
Romains 8:1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas d'après les choses du monde, la chair, mais d'après l'esprit. Voyez-vous, qui ne prête aucune attention à ce que le monde a à dire. Bien que vous soyez malade et que le docteur dise « vous allez mourir », vous n'y prêtez aucune attention. Cela ne vous tourmente pas du tout. S'ils disent « vous devez devenir un catholique avant d'être sauvé » ou un presbytérien, vous devez faire ceci, vous n'y prêtez aucune attention. C'est pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, les choses qu'ils voient. Tout ce que vous voyez avec les yeux, c'est du monde. Mais ce sont les choses que vous voyez dans votre esprit, à travers la parole qui est le miroir de Dieu, qui reflète ce qu'il est et ce que vous êtes. Alléluia! Oh! Cela vous dit, c'est le seul livre dans le monde qui vous dit d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Montrez-moi n'importe quelle page de littérature, n'importe où, avec toute la science ou n'importe quoi d'autre, tous les bons livres qui ont été écrits. Aucun ne peut vous dire cela. C'est le miroir de Dieu qui montre ce qu'il est et ce que vous êtes. Alors, entre les deux, il y a la ligne de sang qui montre ce que vous pouvez être si vous voulez faire le choix. Vous y êtes. Par un esprit. Maintenant, 1 Corinthiens 12. Comment allons-nous dans ce corps? En serrant des mains?
Non, monsieur.
En vous joignant à l'église?
Non, monsieur.
En étant baptisé en arrière?
En avant?
Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Dans le nom de Jésus-Christ? Dans le nom de la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile du matin? Ou quoi que ce soit que vous vouliez? Cela n'a rien à faire avec cela. C'est seulement une réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Et tout de même, nous nous agitons, nous nous émouvons, nous nous disputons et nous nous séparons et nous faisons encore des différences. C'est juste. Mais tout cela, ce sont des œuvres mortes. Nous devons nous élever vers la perfection. Ce sont des choses que j'ai faites. Un ministre vous a baptisé. Qu'il vous ait baptisé le visage en avant, en arrière, ou trois fois, quatre fois, ou une fois, ou peu importe comment il l'a fait. Cela n'a rien à faire avec cela. Vous êtes seulement baptisé dans la communion de cette église, de toute façon, prouvant à cette église que vous croyez à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Imposez les mains pour la guérison des malades, c'est merveilleux, mais c'est tout naturel, et ce corps mourra de nouveau aussi certain que vous vivez. Il mourra de nouveau. Maintenant, laissons de côté toutes ces choses et élevons-nous vers la perfection. Comment nous élevons-nous vers la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ est parfait. Dieu a mis sur lui toutes nos iniquités. Il a été blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Voilà le corps où nous voulons aller. Voilà le corps. Pourquoi? Si vous êtes dans ce corps, vous ne verrez jamais le jugement. Vous ne goûterez jamais à la mort. Vous êtes libérés de toute mort, jugement, péché et de toutes ces autres choses quand vous êtes dans ce corps. Et comment y entrons-nous, prédicateurs? En nous joignant à ce tabernacle, vous êtes quand même perdus. De toute façon, vous ne pourriez pas le joindre car nous n'avons pas de registre de membres. Comment entrons-nous en lui? En nous joignant à une église? Non, monsieur. Comment entrons-nous en lui? Vous y êtes nés. 1 Corinthiens 12. Car par un esprit, nous sommes tous baptisés dans un même corps. Par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans ce corps et sommes libérés du péché. Dieu ne vous voit plus, il voit seulement Christ. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps. Il l'a déjà jugé. Il prit notre jugement et nous invite à entrer. Et par la foi, à travers la grâce, nous marchons et acceptons notre pardon. Et le Saint-Esprit nous amène dans cette communion avec lui. Et nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons selon l'Esprit. animé, la parole nous arriva. Il est mort pour moi, je suis rendu vivant. Me voici, moi qui étais une fois mort dans le péché et dans les transgressions, ayant été rendu vivant. Tous mes désirs sont de le servir, et mon amour est à lui. Tous mes pas doivent être faits en son nom, et où que j'aille, quoi que je fasse, je le glorifie. Si je chasse, si je pêche, si je joue de la balle, quoi que je fasse, je dois être Christ en moi, dans une telle vie que cela fera envie à l'homme d'être comme moi. Pas de bavardage, de médisance et d'agitation dans vos églises. Vous le comprenez? Par un esprit, nous sommes tous baptisés dans ce corps. Et quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Écoutez, lisons seulement un petit peu plus loin ici, s'il vous plaît. Et cela ne pouvait jamais conduire à la perfection ceux qui s'approchent. Car le deuxième verset du 10e chapitre, sinon n'aurait-on pas cessé de les offrir? Si cela pouvait rendre la personne parfaite, et Dieu demande la perfection, si garder la loi et faire tous les commandements vous rendrait parfait, alors il n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Vous êtes déjà rendu parfait, car quand vous êtes parfait, vous êtes éternel, car Dieu est le seul qui est éternel, et Dieu est le seul qui est parfait. Et la seule façon que vous pouvez être éternel, c'est de devenir une partie de Dieu. Étant une fois purifié, n'aurait plus eu aucune conscience de péché. Quoi? L'adorateur, une fois purifié, n'aurait plus aucune conscience, et si vous écrivez la traduction de cela, cela signifie le désir. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus le désir de pécher. Si l'adorateur a été une fois purifié, vous montez maintenant et vous dites, « Oh, alléluia, j'ai été sauvé le soir passé, mais je viens, béni soit Dieu, elle m'a fait reculer, alléluia, quelque autre jour, je serai de nouveau sauvé. » Vous, pauvres illettrés mal entraînés, ce n'est pas la façon de l'être. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. La Bible dit, écoutez, comme nous lisons dans cela juste une minute. Mais il y a dans ces sacrifices, chaque année, un acte remémoratif de péché. Maintenant, nous allons descendre pour toucher le 8e verset. Pour sauver du temps où je veux en venir. Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir. Lesquels sont offerts selon la loi. 9e verset. Alors il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit le premier afin d'établir le second. Le premier, la loi. J'aimerais que l'on ait le temps de rester sur cela. Aussi longtemps que vous êtes presbytérien, ou pentecôtiste, ou baptiste, ou méthodiste, il ne peut jamais rien faire avec vous. Il doit tout d'abord enlever tout cela, vous voyez, afin qu'il puisse établir le second. Aussi longtemps que vous dites, bien, je suis un méthodiste, je n'ai rien contre les méthodistes, ou les baptistes, ou les pentecôtistes. Mes frères, cela ne signifie rien du tout. Vous devez vous élever vers la perfection, c'est-à-dire en Christ. Observez ceci maintenant, juste une minute. Par lequel nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Lisons un peu plus loin, et retenez cela jusqu'à ce que cela s'invite bien pendant que nous lisons. Une fois pour toutes. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, êtes-vous prêt? Votre veste est-elle ouverte maintenant, afin que cela ne soit pas éludé et que cela entre directement dans votre cœur? Mais celui-ci, quel homme? Pas le pape de Rome, pas l'évêque de l'église méthodiste ou d'une autre église. mais cet homme Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. Observez, la voici maintenant qui arrive. Car par une seule offrande, il a rendu parfait, jusqu'au prochain réveil, est-ce que c'est dit cela? Il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Le comprenez-vous? Élevons-nous vers la perfection. Maintenant, vous pèlerins de la sainteté, vous dites, « Oh oui, nous croyons à la sainteté, alléluia, nous croyons à la sanctification. » Mais vous prenez la vôtre, vous cessez ceci et vous cessez cela, et vous savez que vous ne devriez pas le faire, à moins que Christ ait ouvert la porte et l'ait pressé dans votre cœur, et vous devenez une place où le péché est mort et où les désirs du péché sont morts. Tout est fini. Alors il enlève hors de vous votre propre vertu. Il peut s'établir lui-même en vous. Et c'est Christ, le Fils de Dieu, en vous, l'espérance de la gloire. Élevons-nous vers la perfection. Et comment pouvons-nous être parfaits? Par la mort de Christ. Pas en joignant une église, pas par nos bonnes œuvres, ce que nous faisons, tout cela est très bien, pas parce que nous avons été baptisés de cette façon-ci ou de cette façon-là, pas parce que nous avons été guéris par l'imposition des mains, pas à cause d'aucune autre chose, pas parce que nous croyons à la mort, l'ensevelissement et à la résurrection. Paul a dit, je pourrais parler la langue des hommes et des anges, ce sont les langues qui peuvent être comprises et les langues qui ne peuvent pas être comprises qui doivent être interprétées. Je ne suis rien. Même si j'ai le don de la connaissance et que je comprenne toute la sagesse de Dieu, expliquer la Bible et la lier ensemble, je ne suis rien. Ainsi, cela ne fait pas beaucoup de bien d'aller à l'école, n'est-ce pas, pour apprendre la Bible. Même si j'ai la foi pour pouvoir bouger des montagnes, oh, alors les campagnes de guérison ne veulent plus dire grand-chose, n'est-ce pas? Je ne suis rien, même si je donne mon corps à être brûlé comme sacrifice. « Oh, disent-ils, cet homme est religieux, mais il n'est rien, Paul dit, jamais il n'est rien, car où il y a des langues, elles cesseront, où il y a des prophéties, elles tomberont, où il y a toutes les autres choses, cela faillira, mais quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Vous voyez, aussi parfait que cela. Et qu'est-ce qui est parfait? L'amour. Et qu'est-ce qui est amour? Dieu. Laissons de côté toutes ces petites œuvres mortes et toutes ces ordonnances et élevons-nous vers la perfection. Le voyez-vous? Nous parfaits en Christ. Et comment y entrons-nous? Par le baptême du Saint-Esprit. Oh, très bien, qu'arrive-t-il? Vous êtes passé de la mort à la vie. Bien, est-ce que je tremble? Est-ce que je saute? Est-ce que je fais le... Vous n'avez rien du tout à faire. Vous l'avez déjà fait. Dieu vous conduisit de la mort à la vie. Et vous êtes vivant. Alors vos fruits dans votre vie le montrent. Beaucoup de vous, méthodistes et nazaréens, criez aussi fort que vous le pouvez. Et vous volez du maïs dans la parcelle d'un homme. C'est juste. Et vous faites tout ce qui peut l'être. Beaucoup de vous, pentecôtistes, avez parlé en langue. À peu près comme verser des pois sur une peau de vache, certainement. Et vous sortez, et vous êtes parti avec la femme de votre homme, et vous avez fait toutes sortes de choses. Ce n'est pas cela, frère. N'essayez pas d'avoir des sensations ou autre chose pour prendre la place du Saint-Esprit. Quand la nouvelle naissance est venue, vous êtes changé. Vous n'avez rien du tout à faire pour le prouver. Votre vie le prouve. Alors que vous marchez, votre amour, paix, patience, gentillesse, humilité, patience, c'est tout cela que vous êtes. Et tout le monde voit la réflexion de Jésus-Christ en vous. Maintenant, parler en langue, crier, ce sont seulement des attributs qui suivent ce genre de vie. Et vous pouvez les prendre et personnifier ces attributs et ne jamais avoir cette vie. Nous le voyons. Combien savent que c'est vrai? Sûrement, certainement, vous le savez. Vous le voyez tout autour de vous. Ainsi, vous dites qu'il n'y a rien qui dit que c'est l'évidence du Saint-Esprit, à moins que cela soit la vie que vous vivez. Maintenant, si vous parlez en langue, c'est parfaitement bien. Si vous vivez la vie pour l'appuyer, c'est juste. Et si vous voulez crier, très bien, c'est bien. Je crie aussi. Parfois, je deviens si heureux, je peux à peine porter une paire de souliers. J'aimerais sauter hors d'eux. Et c'est merveilleux. Je crois en cela. J'ai vu des visions, des malades être guéris, des morts ressuscités. Quand ils gisaient là, les médecins étaient partis et ils avaient dit, ils sont finis, terminés. Ils gisaient là depuis 2 heures et le Saint-Esprit descendit directement, me montra une vision, descendant là en bas et ressuscita cette personne. J'ai vu ceux qui étaient sourds, muets et aveugles, des estropiés marcher. Cela n'arrive pas, ce sont des attributs. Frère, il y a longtemps, avant que le monde n'ait jamais ait une fondation, Dieu, par sa grâce éternelle, il regarda en bas et par sa préconnaissance, il vous vit, vous et moi. Il savait dans quel âge nous vivrions, il savait ce que nous serions. C'est alors que par élection, il nous a choisis avant la fondation du monde pour être avec lui sans tâche. Et s'il nous a choisis avant la fondation du monde pour être en lui sans tâche, et que nous sommes nés tout tachés, et rien d'autre ne peut, rien ne peut nous nettoyer, comment serons-nous sans, comment allons-nous être sans tâche? Il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait point de fin de vie, mais qu'il ait la vie éternelle, ne mourra jamais, mais aura la vie éternelle. Alors, quand nous venons en lui, par la foi, au moyen de la grâce, nous sommes sauvés par le Saint-Esprit, nous appelant. Et avant qu'il y ait eu un corps sur cette terre, vos corps étaient étendus ici, car cela est fait de calcium, de potasse, d'humidité, de cosmos, de lumière cosmique, et de pétrole, et ainsi de suite, 16 éléments. Et le Saint-Esprit commença de planer sur la terre, sollicitant, et comme il le faisait, la première chose que vous savez, voici que monte une petite fleur de Pâques. Alors il fit sortir de l'herbe et des oiseaux, et après un moment, un homme arriva. Maintenant, il ne fit jamais une femme de la poussière de la terre. Elle est déjà un homme pour commencer. L'homme et la femme sont un. Ainsi, il prit du côté d'Adam une côte, et il fit une femme, une aide pour lui, et alors le péché arriva. Alors, après que le péché soit arrivé, Dieu ne veut pas être vaincu, qu'importe ce qui arrive, il ne sera jamais vaincu. Alors, la femme commença d'apporter l'homme sur la terre, et Dieu, par la grâce éternelle, vit qui serait sauvé, et il vous appela. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'a d'abord appelé. Ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais Dieu qui montre miséricorde. Vous dites, bien, j'ai cherché Dieu et j'ai cherché Dieu. Non, vous ne l'avez jamais fait. Dieu vous a cherché. Voilà comment cela était au commencement. Ce n'était pas Adam qui disait, oh Père, Père, j'ai péché, où es-tu? C'était le Père qui disait, oh Adam, où es-tu? C'est la nature de l'homme, c'est la tension de l'homme, voilà de quoi il est fait. Et personne ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père me donne, alléluia, à tous ceux qui viennent, je donnerai la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle bénie, quelle promesse bénie d'un Dieu du ciel. C'est où nous arrivons ce soir, où il jura par lui-même, car il n'avait pas de plus grand. Vous prêtez toujours serment par quelqu'un qui est plus grand que vous. Il n'y a personne de plus grand. Ainsi Dieu prête un serment par lui-même. Nous y arrivons. Comment il le fit et quand il le fit. Et il prêta serment par lui-même qu'il nous ressusciterait et nous ferait son propre héritage. Oh, comme nous pouvons nous tenir parfaits et solides ce matin. Comme vous pouvez regarder avec la mort, vous fixant droit en face, vous pourriez dire comme Paul, mort, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes. Pourquoi? Oh, vous avez fait ceci et ceci. Je sais, je suis couvert de son sang. Alléluia. Par un esprit, nous sommes tous baptisés dans un corps. vous méthodistes, baptistes, presbytériens, qui que vous soyez, nous avons été baptisés dans un corps, et nous avons de la communion, et nous sommes citoyens du royaume de Dieu, professant que nous ne sommes pas de ce monde. Ma petite fille est venue l'autre jour, et elle m'a dit, « Papa, cette petite fille a fait ceci et ceci, et ils ont fait ceci et ceci, et nous sommes allés chez elle, et nous avons fait ceci et ceci. » Je dis, elle dit, « Pourquoi ne faisons-nous pas, nous, ces choses ?» Je dis, « Chérie, nous ne sommes pas de ce monde-là. Ils vivent dans un monde à eux. » Je dis, elle dit, « Ne marchons-nous pas tous sur le même terrain ou la même terre ?» Je dis, « Du monde, chérie, mais nous ne sommes pas de ces gens-là. La Bible dit, « Sortez du milieu d'eux. Soyez séparés, dit Dieu. » Vous voyez, vous n'êtes pas de cela. Et quand cette nouvelle nature vient en vous, vous n'avez pas besoin que l'on vous tire dehors, parce que vous ne voulez pas vous retourner comme la femme de Lot. Vous êtes simplement né hors de cela. Vous êtes dans une autre dimension, et tout cela vous semble sale. Et ceci, la grande Amérique fabuleuse dans laquelle nous vivons, cela est devenu un grand chaos. Tout est luxure et femme, et les femmes de la façon qu'elles s'habillent, les hommes de la façon qu'ils agissent, et les choses qu'ils font, et alors ils s'appellent des chrétiens. Par exemple, c'est Elvis Presley. Il va joindre l'église de Pentecôte maintenant, bien sûr. C'est comme Judas obtint 30 pièces d'argent. Elvis a eu, lui, une série de Cadillac et quelques millions pour vendre son droit d'aînesse. Et Arthur Godfrey, regardez cela. Regardez à Jimmy Osborne à Louisville, là-bas, avec ce vieux boogie-woogie rock'n'roll de vieilles bêtises et de la saleté. Et le dimanche matin, il prend la Bible et il se tient debout à la chair et il prêche. Quelle disgrâce! Pas étonnant que la Bible dise « Toutes les tables sont pleines de vomissures ». Pourquoi? Nous vivons dans un jour terrible. Et les gens disent « Oh, ils sont très religieux ». Oh, ne savez-vous pas que le diable est religieux? Ne savez-vous pas que Caïn était aussi religieux qu'Abel? Mais il n'avait pas la révélation. C'est cela, il n'avait pas la révélation. Oui, nous allons tous à l'église, mais il y en a qui ont la vie. Ce sont eux qui ont la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Pas en tremblant, en sautant, pas en joignant une église, mais la révélation. Dieu l'a révélée. Regardez ce qu'il a dit. Qu'est-ce que l'homme dit que moi, le Fils de l'homme, je suis? Il y en a qui disent, tu es un prophète. D'autres disent, tu es Élie. Et d'autres, il dit, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'était pas de ses lèvres. Il dit, béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont jamais révélé cela. Tu n'as pas pris cela dans quelque morale de la Bible ou dans quelque séminaire de théologie. Béni sois-tu, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est au ciel l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Si vous êtes un chrétien ce matin, simplement parce que vous appartenez à l'église, vous êtes perdu. Si vous êtes un chrétien parce que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes libéré du jugement. En Christ, vous avancez dans la perfection tout le temps. Dieu ne peut pas voir une chose. Vous dites, est-ce que je ferai jamais une faute? Certainement vous en ferez, mais vous ne la ferez jamais volontairement. Maintenant, nous allons dans cela, seulement dans quelques minutes. Car celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Nous entrons dans cela ce soir, parce qu'il est trop tard maintenant. Lisons seulement quelques versets en plus de ceci, afin que nous puissions nous sentir mieux en allant un peu plus profondément. Très bien. Pourquoi ne commençons-nous pas juste sur cela ce soir? Le quatrième verset. Car tous ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et participé à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient ramenés à une nouvelle repentance. Vous voyez? Et nous prendrons cela dans Hébreux 10, et en avant et en arrière pour montrer ce que cela est. Amis, élevons-nous vers la perfection. Nous sommes Nous ne sommes pas, nous sommes sans excuse aujourd'hui. Nous n'avons pas d'excuse du tout. Le Dieu du ciel est apparu dans ces derniers jours. Il a fait les mêmes choses qu'il a faites alors, quand il était là, avant, quand il était sur la terre. Il l'a prouvé. Et comme nous arrivons à travers cette Bible, et vous êtes, vous, la classe, sachez cela, que nous avons pris miracle par miracle, et signe par signe, et prodige par prodige, ce qu'il fit avec les enfants dans le désert, les choses et les signes qu'il fit. Les choses qu'il fit quand il était ici sur la terre, manifestées dans la chair, et les mêmes choses prennent place aujourd'hui, juste ici, au milieu de nous. Voici la parole pour les justifier. Voici la chose à dire, c'est juste, pour le faire juste. Voici l'Esprit de Dieu pour faire la même chose. Ainsi, nous sommes sans excuse. Prions. Père céleste, voyant que nous sommes entourés tout autour par une si grande nuée de témoins, laisse-nous mettre de côté chaque parole, chaque chose, chaque faute, chaque mauvais mot, chaque parole maldite, chaque pensée, et laisse-nous avancer avec patience dans la course qui est devant nous, regardant à l'auteur et à celui qui achève notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Ô béni soit son saint et incomparable nom. Comme il est venu sur la terre pour racheter l'homme tombé et pour les ramener dans la communion du Seigneur Dieu, et nous te remercions pour cela. Et maintenant, par sa grâce, nous ne l'avons jamais choisi, mais il nous a choisi. Il a dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Quand? Avant la fondation du monde. Et Dieu précieux, s'il y en a un qui est assis ici ce matin, qui a peut-être remis cela pendant des années, mais constamment il y a un petit choc à son cœur. Peut-être qu'ils ont joint une église pensant, bien, cela sera très bien. Père, certainement les Écritures l'ont expliqué ce matin, que vous ne pouvez vous cacher derrière une église et être juste, et vous ne pouvez non plus pas être bon, ne pas mentir et voler, ne rien faire de mal, et être tout de même juste. Nous n'avons qu'une seule justice, pas la nôtre, mais sa justice. Il a rendu notre salut parfait. Ainsi étant lui, Dieu ne voit pas nos fautes. Et quand nous faisons quelque chose de faux, il y a un esprit en nous qui crie « Ô Père, pardonne-moi !» Alors Dieu ne la voit pas. Et c'est, nous sommes amenés dans la communion et dans la grâce avec lui. Accorde-le, Seigneur, pendant que nous terminons ce service, au nom de Christ. Amen. Juste pour un moment, j'aimerais vous demander, qu'importe ce que vous faites, vous êtes perdu. Écoutez ceci, il y a quelque temps, cela se peut que je l'ai déjà dit, voici une petite expérience qui m'est arrivée. J'étais à Toledo, dans l'Ohio. J'étais dans un réveil, et j'avais une réunion là-bas, et tant de monde. Et ils savaient où les hôtels étaient, ainsi ils m'avaient conduit dans la campagne. Et je restais là dans un petit motel. Nous avions mangé dans un petit restaurant Dunkard. C'était un endroit magnifique. Ces petites dames-là étaient aussi chrétiennes et saintes qu'elles pouvaient l'être, propres et très gentilles. Et le dimanche arriva, et j'eus faim. J'avais un peu jeûné, et je voulais aller de l'autre côté de la route, dans un autre petit restaurant, une petite route là, près du coin, et il y a un petit endroit régulier américain, tout simple, pour manger. C'était un petit endroit, un café ouvert toute la nuit. Et quand j'entrais là-dedans, ce dimanche, environ vers 2 heures de l'après-midi, avant d'aller prêcher cet après-midi-là, j'en étais arrivé que je ne savais plus quoi faire. J'entrais, et la première chose que je remarquais, c'était une jeune fille, environ 16 à 18 ans. La petite chérie d'un papa et la petite chérie d'une maman. Debout là-bas, derrière, avec un garçon, avec les mains de ce garçon autour de sa taille. Une bande d'adolescents assis au comptoir. Et j'entendis un jukebox. Et je regardais de ci, de là, et il y avait un policier qui était là debout, avec son bras autour d'une femme. Comme cela, autour de sa hanche, et jouant avec une machine automatique. Maintenant, vous savez que jouer et les machines automatiques sont illégales en Ohio. Et vous, les gens de Buckeye, ici, et vous savez que c'est illégal. Et ici, c'était la loi, jouant avec une machine automatique, une machine à sous. Un homme de mon âge, probablement marié, avec une bande d'enfants, peut-être un grand-père, un policier, un patrouilleur, jouant avec une machine à sous. Il y avait ce jeune, qu'a fait l'adolescence, qu'a-t-elle fait? Je me tins là, et personne ne prêta attention à moi quand j'entrais. Ils étaient trop occupés, la moitié étant ivre. Ainsi j'observais, et j'entendis quelqu'un dire, « Bien, tu crois que la pluie va ruiner la rhubarbe ?» Et je regardais ici autour, et ils étaient assis. Il y avait une dame, une vieille dame, très vieille. Elle avait 65, 70 ou approchant. La pauvre dame. Tu ne blâmes personne pour paraître à leurs yeux, mais quand elle s'était arrangée, elle avait fait ses cheveux tout bleus, paraissant vraiment bleus. Elle s'était coupée comme cela tout en haut, elle les avait rendus vraiment bleus. Elle avait aussi une manucure très épaisse, ou comment appelez-vous cette chose, ce qu'elle mit sur son visage? C'était comme de grosses taches. Elle avait de très petits shorts, et cette pauvre vieille chose était si ridée que la chair molle, la chair pendait comme cela sur ses jambes. Elle était ivre. Elle était assise là avec un vieil homme, et c'était en été, avec un de ces vieux par-dessus de l'armée, gris ou olive brunâtre. Et pendant comme cela, et une grosse écharpe au-dessous de son cou, ivres tous les deux, et ils étaient avec cette pauvre femme. Je me tins là et je regardais, et je dis, « Oh Dieu, comment peux-tu supporter tout cela? Comment peux-tu regarder cela? Quand cela me fait, un pécheur sauvé par la grâce, penser que comment peux-tu regarder cela? Il me semble que tu devrais faire éclater cette chose. Est-ce que ma petite Rebecca et Sarah doivent grandir dans une telle sorte d'influence? Est-ce que mes deux petites filles doivent rencontrer un monde connu comme populaire comme cela est aujourd'hui, où les gens agissent de la sorte? Oh Dieu, comment puis-je jamais? Qu'est-ce que je peux faire? » Évidemment, c'est sa grâce. S'ils étaient ordonnés à la vie éternelle, ils y viendront. Et s'ils n'y étaient pas, ils n'y viendront pas. Je ne sais pas. Cela dépend de Dieu. Je ferai ma part. Je pensais, comment peux-tu le supporter, oh Dieu? Il me semble que tu es si saint que tu balayerais cette chose de la terre. Je dis, regarde cette pauvre grand-maman assise là, regarde cette jeune fille là derrière, et voici une femme debout ici qui a peut-être 25 ans, et ce policier avec ses bras autour de sa taille, jouant avec une machine à sous. Voici la loi, la nation est finie, voici la maternité est finie, voici la vieillesse est finie, et voici une jeune fille assise là derrière, elle est aussi finie. Regarde ce garçon, alors qu'il devrait être à l'église ou quelque part. Et je pensais, oh Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Et me voici dans cette ville, criant de tout mon cœur, et ils l'ignorent, et ils marchent comme s'ils étaient. Et je pensais, oh Dieu, bien, alors une pensée vint. Si je ne les ai pas appelés, comment peuvent-ils venir? Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Vous avez des yeux, mais vous ne pouvez pas voir, et des oreilles, et vous ne pouvez pas entendre. Je pensais, bien, si le président venait en ville, à l'endroit du réveil, tout le monde y viendrait aussi. Oh, certainement, ce serait mondain. Alors je pensais, bien Dieu, comment? Pourquoi ne fais-tu simplement pas? Bien, envoie! Viens et envoie Jésus, et que tout soit terminé. Pourquoi ne vas-tu pas simplement, et que tout soit terminé, et que tu le laisses passer? Alors, je commençais de voir quelque chose bouger devant moi. Cela ressemblait à un petit tourbillon tournant autour comme cela. Je continuais à regarder, et je vis un monde tourner autour et autour. Et je l'observais. Et cela vaporisait quelque chose. Et je regardais. C'était une ligne de sang rouge cramoisi à travers tout autour du monde, tournant juste comme un tourbillon. Et autour, il y avait un tourbillon comme cela. Et je regardais ce tourbillon. Et juste au-dessus de lui, je vis Jésus dans la vision. Il regardait en bas. Et je me vis debout sur la terre, faisant les choses que je ne devrais pas faire. Et chaque fois que je péchais, Dieu aurait dû me tuer, car le jour où vous en mangerez, ce jour-là vous mourrez. Et la justice et la sainteté de Dieu demandent, et vous devez mourir. Et alors, je regardais là, et je me frottais les yeux, je dis, je ne me suis pas endormi, c'est une vision, je suis sûr que c'est une vision. Je continue de regarder, alors que je me tenais derrière la porte, et je vis mes propres péchés monter, et chaque fois qu'ils voulaient commencer à toucher le trône, son sang agissait comme un pare-choc sur une voiture. Cela le prenait et je le voyais trembler et le sang coulait le long de son visage. Et je le voyais lever ses mains et dire, « Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » Et je me vis faire autre chose et cela le fit trembler de nouveau, un choc. Cela aurait, Dieu aurait dû me tuer juste là, mais son sang me protégeait. Il retenait mes péchés. Je pensais, « Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Certainement, ce n'était pas moi, mais c'était moi. Alors, je me suis avancé comme cela, comme si je passais à travers cette chambre, et j'avançais tout près de lui. Je vis un livre qui était là. Mon nom était inscrit, et toutes sortes de lettres noires écrites tout à travers. Je dis, « Seigneur, je regrette d'avoir fait tout cela. Est-ce que mes péchés t'ont fait faire cela? Est-ce que j'ai fait tourner ton sang autour de la terre? Est-ce que je t'ai fait cela? Je regrette de l'avoir fait. » Et il se tendit vers moi. Je dis, « Veux-tu me pardonner ? Je n'en avais pas l'intention. Je veux, toi, par ta grâce, j'essayerai d'être un meilleur garçon si tu veux simplement m'aider. » Il prit sa main et toucha à son côté, prit son doigt et écrivit « Pardonner » sur mon livre. Et il le jeta derrière lui dans la mer de l'oubli. Je le regardai un petit peu et il dit, « Maintenant, je te pardonne, mais toi, tu veux condamner cette femme. » Voyez, il dit, « Tu es pardonné, mais alors elle, tu veux qu'elle soit condamnée? Tu ne voulais pas qu'elle vive. » Je pensais, « Oh Dieu, pardonne-moi, je ne voulais pas penser ainsi. Tu es pardonné, tu te sens bien, mais alors elle, elle en a aussi besoin, elle en a besoin. » Oh, je pensais, Dieu, comment est-ce que je savais qui tu as appelé et qui tu n'as pas appelé? Alors c'est mon affaire de parler à tout le monde, de prêcher à tous. Ainsi, quand la vision me quitta, je m'approchai d'elle. Je dis, comment allez-vous, madame? Et ces deux hommes étaient allés au WC, et elle était assise là, hoquetant, vous savez, riant, la bouteille de whisky sur la table, ou c'était de la bière, ou de l'alcool, là où ils étaient en train de boire. Je m'avançais, je dis, « Comment ça va-t-il ? » Elle dit, « Oh, bonjour !» Et je dis, « Est-ce que je pourrais m'asseoir ?» Elle dit, « Mais je suis accompagnée !» Je dis, « Je ne l'entendais pas de cette façon, sœur !» Elle me regarda quand je l'appelais sœur. Elle me dit, « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je dis, « Est-ce que je peux m'asseoir pour une minute ?» Elle dit, « Allez-y !» Et je m'assis. Je lui dis ce qui est arrivé. Elle dit, « Quel est votre nom ?» Et je dis, « Branham !» Elle dit, « Êtes-vous l'homme là-bas dans l'arène ?» Je dis, « Oui, madame. » Elle dit, « J'ai désiré aller là en bas. » Elle dit, « Monsieur Branham, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. » Elle dit, « J'ai deux jeunes filles qui sont chrétiennes. » Mais certaines choses sont arrivées. Et elle est arrivée sur la mauvaise route où elle a commencé. Je dis, « Mes sœurs, cela m'est égal. Le sang est toujours autour de vous. Le monde est couvert de ce sang. » Et s'il ne l'était pas, Dieu nous tuerait tous. Mais quand ce sang bougera, faites attention au jugement. Mais maintenant, si vous mourrez sans ce sang, vous allez au-delà de cet endroit, alors il n'y a plus rien pour agir pour vous. Aujourd'hui, le sang agit à votre place. Je dis, madame, certainement, le sang vous couvre toujours. Pour aussi longtemps que vous avez un souffle dans votre corps, le sang vous couvre. Mais un jour, quand le souffle vous quitte ici, que l'âme s'en va, vous irez au-delà de ce sang, et il n'y a rien que le jugement, alors que vous avez une chance pour le pardon. Et je la pris par la main. Elle pleurait, elle dit, « Monsieur Branham, je bois. » Je dis, « Cela ne fait aucun mal. Quelque chose ou une autre m'a averti de venir vous le dire. » Je dis, « Dieu, avant la fondation du monde, vous a appelé, sœur. Et vous agissez mal, et vous ne le rendez que plus pire encore. » Elle dit, « Vous croyez qu'il pourrait m'avoir ? » Je dis absolument, il vous aura. Et là, sur ses genoux, nous nous sommes mis au milieu du plancher et nous avons eu une réunion de prière à l'ancienne mode. Et ce policier enleva son chapeau, il s'inclina sur un genou et nous eûmes une réunion de prière là, dans cette place. Pourquoi ? Dieu souverain, laissant de côté toutes ces œuvres mortes, élevons-nous vers la perfection. Avançons dans ce royaume où il y a, j'appartiens à l'Église et j'appartiens à cela. Oh, tout cela est terminé. Élevons-nous vers la perfection. Mon ami pécheur, si vous êtes sans le sang aujourd'hui, sans salut, sans grâce, le sang de Jésus-Christ vous tient. Vous dites, Bien, j'ai pu faire tout ce temps, mais un jour, vous allez ou alors il n'y a plus rien pour vous. Prions maintenant, pendant que nous inclinons notre tête. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui qui aimerait dire « Dieu, aie pitié de moi, je réalise que j'ai fait faux ». Peut-être que vous vous êtes joint à une église, c'est très bien, mais si vous n'avez pas reçu la grâce de Christ, voulez-vous lever votre main et dire « Priez pour moi, frère Branham ». Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse, madame. C'est juste. Non. Dieu vous bénisse, monsieur, là-bas derrière. Dieu vous bénisse. Et vous, tout en arrière, oui, Dieu vous bénisse. Levez votre main, c'est juste. Levez simplement votre main. Levez et dites « Dieu soit miséricordieux envers moi ». Vous dites « J'appartiens à l'Église, frère Branham. Oui, j'ai essayé d'être bon, mais je ne sais pas, il semble que je ne peux pas y arriver ». Ô pauvre pèlerin, pauvre ami décrépit, vous n'avez vraiment jamais encore vu la vision. Vous dites, frère Branham, j'ai crié, j'ai parlé en langue, j'ai fait tout ceci. Cela peut être juste aussi, c'est très bien, je n'ai rien à dire contre cela. Mais mon très cher ami perdu, mais de parler en langue, ou de trembler, ou de serrer les mains, ou d'être baptisé, cela est très bien. Mais de le connaître, c'est connaître une personne. De le connaître, c'est la vie. Vous dites, je connais très bien la Bible. C'est bien, connaître la Bible, ce n'est pas la vie. De le connaître, le pronom personnel, de le connaître, Christ, que vous sachiez qu'il vous a pardonné. Voulez-vous encore une fois lever vos mains, quelqu'un d'autre? Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse là-bas, frère. Dieu vous bénisse là-derrière, jeune homme. Dieu vous bénisse là-bas, sœur. Dieu vous bénisse tout là-bas au fond. C'est juste, de le connaître. C'est la vie. Frère Branham, rappelez-vous de moi. Je suis maintenant ici, dans mon siège, et je veux accepter Christ. Dites, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, et donne-moi cette paix, cette douceur. Allez à l'église, jouez de la musique aussi fort que vous le pouvez, dansez du haut en bas, courir à travers la nef, allez à la maison, là, s'agiter, et faire des histoires. Cela n'est pas Christ. Vous allez à l'église, vous êtes ainsi en train d'écouter quelques sermons sur comment le pont va être peint ou quelque chose d'autre comme cela. Vous n'écoutez même pas jamais la parole. La parole apporte la vie. C'est la semence. Ne voulez-vous pas la paix? Mourir vous trouble-t-il? Si vous aviez une crise cardiaque aujourd'hui, cela vous inquiète-t-il? Ou est-ce que vous vous réjouiriez en disant « Je serai avec le Seigneur Jésus à la fin de la route » Le connaissez-vous? Si vous ne le connaissez pas, levez simplement votre main. Nous allons demander la prière pour vous. Oui, frère, vous aussi. Très bien. De tout votre cœur maintenant, chantons. Simplement, comme je suis, sans une excuse, mets ton sang qui fut répandu. Pour qui? Pour moi. Parce que je promets que je croirai. Ô agneau de Dieu, ô agneau de Dieu, je viens. Je viens, tendrement, pieusement, simplement comme avancez simplement vers lui par la foi. Croyez qu'il est debout juste là à côté de vous, il l'est. Pas de débarrasser mon âme de combien maintenant? D'un, le tempérament, la malice, à lui dont le sang peut laver chaque tâche. Ô agneau, par la foi je marcherai vers la croix ce matin, je dépose mon fardeau. Je viens. Dieu vous bénisse là-bas derrière, je le vois. Frère Branham murmure l'hymne, note de l'éditeur. Ne soyez pas indifférent maintenant. Chaudement, doucement, marchez directement vers la croix. Dans l'Ancien Testament, ils amenèrent un agneau. Ils savaient qu'ils avaient péché. Ils le savaient par les commandements. Et vous le savez maintenant parce que Dieu parle à votre cœur. Ils regardèrent les commandements, « Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne feras pas ceci et cela. » Et ils prirent un agneau. Ils allèrent, ils mirent leurs mains sur l'agneau, et le sacrificateur lui coupa le cou. Le pauvre petit se débattait, saignait, bêlait et mourait. Ses mains étaient toutes couvertes de sang. L'agneau était mort à sa place, mais il s'en allait avec le même désir de pécher de nouveau. Mais à cet endroit, nous venons par la foi, à travers la grâce. Dieu nous a appelés, nous posons nos mains sur la tête de l'agneau de Dieu, et nous entendons ce marteau se balançant, nous entendons cette voix, « J'ai soif, donne-moi à boire,
Père ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, par la foi, nous sentons sa mort là, à notre place. Tout là, au plus profond de notre cœur, vient une paix profonde et calme quand une voix dit, tu es pardonné maintenant, va et ne pêche plus. Comment alors, par grâce, pourrions-nous nous en aller avec le même désir? Mais c'est un désir de ne plus jamais pécher ou de faire quelque chose de mal. La paix qui dépasse toute compréhension est entrée dans notre cœur. Oh, puissiez-vous le recevoir alors que nous prions tous ensemble. Père céleste, ils viennent par la foi, à travers la grâce. Il y a environ une douzaine de mains qui se sont levées. C'est le fruit du message. Ils viennent à toi. Ils croient. Je crois en eux aussi, Seigneur. Je crois cela sincèrement. Le Saint-Esprit leur a parlé. Et par la foi, ils montent directement l'échelle de Jacob maintenant, jusqu'au pied de la croix. Là, posant tous leurs péchés et disant, « Seigneur, c'est trop pour moi. Je ne peux simplement plus le supporter plus longtemps. Veux-tu m'enlever mon fardeau de péché? Prends de mon cœur le désir de faire cela. Laisse-moi, par la foi en ce jour, te recevoir comme mon sauveur personnel. Et à l'avenir, je te suivrai chaque mille du chemin jusqu'à la fin du voyage. J'ai une petite idée de ce que cela veut dire de s'élever vers la perfection. Ce n'est pas aller à l'église ou les racines des œuvres mortes comme le baptême et ainsi de suite, mais je veux avancer jusqu'à ce que je ne sois plus et que Christ puisse vivre en moi. Ô Jésus, accorde cela à chaque âme pénitente et repentante ce matin. Chacun qui leva sa main recevra la vie éternelle parce que tu l'as promis. Ils ont fait une acceptation publique. Ils ont levé leurs mains. Ils ont brisé toutes les lois de la gravité. Ils ont rendu la science honteuse d'elle-même parce que la science dit que votre bras doit pendre en bas. N'importe qui prouverait cela en science, qu'il doit rester attaché à la terre parce que la gravité le tient en bas. Mais il y avait un esprit en eux qui prit une décision. Et ils ont défié les lois de la gravité et ils ont levé leurs mains. Tu les as vus, Seigneur. Tu as mis leur nom sur le livre. Pardon. Le vieux livre est en arrière dans la mer de l'oubli maintenant. Oh, il ne s'en rappellera jamais plus. Laisse-les aller de l'avant aujourd'hui comme des chrétiens, aimants et doux pour te servir. Et peut-être, à beaucoup qui n'ont pas levé leurs mains, accorde-le aussi. Laisse les saints marcher un peu plus près, Seigneur, car nous sommes une journée plus près de notre demeure que nous étions hier. Sois avec nous, Seigneur, car nous le demandons dans le nom de Christ et pour sa gloire. Amen.